Chapitre 31.1 Les meilleures armes sont des instruments de malheur. Les meilleures armes sont des instruments de malheur. Tous les dédaignent. Qui possède Tao ne s'en préoccupe donc pas. Dans la demeure du sage, la place d'honneur est celle de gauche. Qui emploie des soldats honore la place de droite. Les armes sont des instruments de malheur, non pas les instruments du sage. Il les emploie exclusivement s'il ne peut pas faire autrement. Le calme et la paix sont pour lui supérieurs. S'il est vainqueur, il ne s'en réjouit pas, car s'en réjouir revient à aimer tuer des hommes. Et qui aime le meurtre n'atteint jamais son but dans le bon gouvernement de son royaume. Dans tout ce qui procure le bonheur, la place de gauche est la plus haute. Dans tout ce qui procure le malheur, c'est la place de droite la plus haute. Le subordonné prend la place de gauche, le chef la place de droite. C'est-à-dire qu'on les place suivant les rites des cérémonies funèbres. Qui a tué une grande foule d'hommes doit prendre le deuil et pleurer sur eux. Qui a gagné une bataille doit être placé comme dans une cérémonie funèbre. Fondamentalement, le chapitre 31 du Tao Te Ching ne présente aucun mystère pour personne. Il est frappant et très explicite. La seule chose marquante est que, depuis des milliers d'années déjà, un enseignement aussi positif et parfaitement antimilitariste ait été répandu par Lao Tzu sur la base de Tao, enseignement marqué d'un réalisme typique, un réalisme qui donnera sans doute à réfléchir. Il en ressort combien l'humanité, au cours des milliers d'années écoulées depuis l'époque de Lao Tzu, a profondément sombré et à quel point les habitudes font prendre le chemin qui descend toujours plus bas. Ce qui du temps de Lao Tzu n'était admis qu'en cas d'extrême nécessité est devenu de nos jours habituel et considéré comme évident et inévitable. Il y a donc une différence presque incommensurable entre le niveau de civilisation intérieure d'alors et celui d'aujourd'hui. Et rien n'est plus approprié pour démasquer l'illusion de civilisation de l'humanité actuelle qu'une claire réflexion sur ce chapitre. Les meilleures armes sont des instruments de malheur. Tous les dédaignent. Qui possède Tao ne s'en préoccupe donc pas. C'est dit d'une façon si directe et si évidente que Lao Tzu n'éprouve pas le besoin d'insister davantage. En notre temps, ce sujet fait l'objet de graves discussions de la part d'hommes extrêmement sérieux. Porter l'uniforme au service de la patrie, du peuple et de l'État est considéré comme une profession honorable. Il existe des écoles militaires où une solide culture générale est nécessaire pour être admis. C'est une discipline vers laquelle de nombreux jeunes gens très distingués, hautement civilisés, se sentent attirés. En notre temps, on nomme héros ceux qui sont les auteurs de faits d'armes, de faits de guerre remarquables. Ils sont honorés et glorifiés. Cependant, il est certain qu'ils n'ont ni plus ni moins droit à la gloire et à l'honneur que le reste de leurs compatriotes. Ce problème doit être vu dans sa totalité comme un phénomène mondial, comme le trait caractéristique de l'humanité actuelle. L'économie mondiale tout entière de nos jours dépend étroitement de l'industrie de l'armement. Et ces industriels sont souvent des citoyens éminents, non seulement en ce qui concerne l'économie et la richesse, mais également du point de vue moral. Nous en voyons un exemple frappant en la personne de Nobel, le roi du canon, l'inventeur de la dynamite qui constitua une fondation au service de la science. Et beaucoup de personnalités éminentes ont été honorées d'avoir reçu le prix Nobel, et le sont encore. Or, au milieu de tous ces phénomènes sociaux, partout acceptés et considérés comme honorables, retentissent les paroles de Lao Tzu, qui ne sont pas modernes, mais remontent à des milliers d'années. Les meilleures armes sont des instruments de malheur. Tous les dédaignent. Qui possède Tao ne s'en préoccupe donc pas. Il y eut donc un temps où, d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui cherchaient l'esprit, vraiment tous, dédaignaient les armes, et où ceux qui possédaient réellement Tao s'en désintéressaient absolument. Ne doit-on pas tirer de ce fait quelques conclusions? Nous avons actuellement dans notre monde les meilleures armes, si bonnes et si perfectionnées qu'elles n'ont pu être conçues que par les grosses têtes de la science. Elles sont capables, en quelques secondes, d'anéantir l'humanité entière. De ce fait, l'idée que les armes sont des instruments de malheur commence à pénétrer de nombreuses couches de la population mondiale. Cependant, c'est dans le sens inverse, car cette conscience ne s'est pas développée à cause de Tao, mais en raison d'une angoisse immense, tandis que jadis on méprisait les armes pour des motifs purement éthiques. Remarquez-vous la différence ? Voyez-vous comment la dialectique se découvre ici ? Elle fait toujours ainsi. Mais maintenant, l'angoisse est apparue, une immense angoisse, car ces armes, tellement dangereuses, sont réparties également. S'il n'en était pas ainsi, l'angoisse ne serait pas si grande en Occident. Les armes sont partagées entre deux parties adverses. Il n'en était pas ainsi autrefois, où un groupe était bien armé et les autres pas du tout ou à peine. Et le groupe qui possédait les armes n'avait pas de raison d'avoir peur. Les choses sont maintenant totalement différentes. Nous voulons vous faire clairement comprendre que les protestations contre les armes atomiques ne sont certainement pas nées de motifs taoïstes, de directives taoïstes, mais des faits, des conséquences du déclin qui avance à grands pas. Au cours des 50 dernières années, le dernier petit reste de morale originelle positive a disparu de l'humanité. De ce fait, la bonté ordinaire a pris sa place, la bonté ordinaire qui n'a plus aucun contenu, une civilisation qui n'est qu'un vernis. Et ceux qui possèdent Tao ne s'en préoccupent pas. Qu'est-ce que Tao ? C'est le terme sous lequel on regroupe tout ce qui est réel dans la personnalité humaine, tout ce qui est éternel. C'est l'âme en croissance qui doit commencer par s'éveiller, donc devenir vivante, s'unir à l'esprit, au Père, à Dieu, et devenir ainsi pimandre. Mais qui peut, en notre temps, s'offrir le luxe d'avoir une âme ? Et bien plus, de prêter l'oreille à une influence aussi asociale ? Combien ridicule, asociale, irréelle ! C'est pourquoi il existe un semblant d'âme, bien étudié, entretenu quelques heures par jour. C'est pourquoi on discourt naturellement sur la gnose. Mais pratiquer Tao ? Quelle idée ! La vie actuelle est absolument antignostique. Il est impossible de tenir son rôle dans la vie moderne, d'occuper une certaine position et de servir en même temps la gnose. C'est exclu. L'humanité est-elle sous l'emprise du mal de façon si raffinée ? L'humanité est menacée par le mal le plus effroyable qui soit, l'ignorance. L'humanité se perd faute de connaissance. L'homme ne possède plus aucune conscience du but pour lequel il est né. De ce fait, l'instrument de la personnalité humaine a dévié. Et l'unique réalité que l'on puisse encore appréhender, c'est l'angoisse. Car l'humanité est arrivée à la limite, et la seule chose qui demeure encore est l'angoisse. Une angoisse sans mesure. L'angoisse ronge le foie. Une autorité militaire, autrefois, était un stratège. Un seul homme dirigeait une très grande armée, et cet homme imposait donc le respect. Le stratège apparaissait comme un homme bien de sa personne, aux pensées brillantes, plein de civilité, de compagnie agréable, portant un bel uniforme sur un corps élancé. Il se comportait totalement en conformité avec les lois de son pays. Maintenant, il en va tout autrement. Il y a une bombe atomique quelque part et un bouton. Il y a un missile avec un autre bouton. Et il y a encore une bombe atomique, encore un missile et encore un autre bouton. Et ceci à l'est et à l'ouest. Et tous savent que si l'un appuie sur un bouton, l'autre fera pareil. Et en quelques secondes, ce n'est pas seulement une division d'une armée ou une armée entière qui sera anéantie, mais en même temps, tous ces hommes, bien de leur personne, aux idées brillantes, d'une civilité rayonnante portant un bel uniforme sur leur corps élancé. Tout peut être anéanti en quelques secondes. Voilà la situation actuelle. Il n'y a plus de stratégie. La compagnie, où le stratège brille éventuellement à ses heures libres, sera aussi anéantie. L'humanité entière est au bord du suicide, sur l'extrême bord de l'abîme. C'est pourquoi il ne reste plus que l'angoisse. Et l'on tente, dans cette situation critique, de se défaire de l'angoisse par des flots de paroles, par l'absurdité. Et tous s'y mettent. L'illusion de pouvoir tout conquérir, tout vaincre par la violence des armes, cette illusion est réduite à néant parce qu'amis et ennemis ont le doigt sur le bouton. Mais il y a une nouvelle illusion à l'heure présente. C'est de partir à la conquête de l'univers. La société actuelle se branche sur cet autre monde et le monde entier se prosterne devant cette idée. Mais de nouveau, il y a là aussi deux rivaux. Chacun veut surpasser l'autre. L'un s'élance dans les nues pour mieux retomber sur terre. Et l'art consiste à rester en vie pour être reçu par le président de son pays. L'autre s'élance de même dans les nues, tourne autour de la terre à quelques centaines de kilomètres de hauteur pour retomber de même sur terre afin d'être également reçu par son président. On appelle ces hommes des astronautes. C'est le sommet de l'illusion. Illusion ressentie d'autant plus intensément que l'on connaît un tant soit peu le but grandiose de l'humanité. C'est une illusion si profondément ancrée que nous ne décrirons pas tous ces phénomènes si bien connus en prenant parti pour ou contre, avec antipathie ou sympathie, mais nous montrerons la plus grande compassion pour la culbute vertigineuse de millions d'hommes dans cette mascarade. Quelle chute toujours plus profonde! C'est pourquoi vous comprenez peut-être, pour la première fois dans votre vie, ce qu'est une école spirituelle gnostique, ce qu'une telle école voudrait être. Une enclave au milieu de l'épouvante. Mais une enclave où l'on se distancie pleinement de cette société en fermentation, qui pourrit et se décompose d'elle-même. Une enclave où l'on pourrait se trouver uniquement, disons-le encore une fois, grâce à un comportement totalement nouveau. Savez-vous que ceux qui guident notre destin s'occupent très activement de préparer l'humanité à sa fin? Cette préparation a lieu depuis longtemps de deux façons. Il y a une préparation à la gnose, au salut, à la libération, comme vous le savez, et comme l'indiquent les écrits sacrés, à condition que ceux qui y sont invités, ceux qui écoutent, veuillent se conformer à de nouvelles règles de vie positive. Et il y a encore autre chose qui se prépare, ceci dans le but, si le monde entier disparaissait bientôt et que la terre entière devienne un désert, d'épargner une petite partie de l'humanité pour pouvoir, en son temps, au cours de millions d'années, repeupler la terre grâce à ceux qui seraient restés en arrière. C'est donc une préparation qui concerne une très petite partie de l'humanité, laquelle devrait servir de noyau à un futur repeuplement de la terre, dans des conditions totalement nouvelles au cours de millions d'années. Il y a donc trois certitudes. Premièrement, l'anéantissement total. Deuxièmement, le sauvetage de ceux qui suivent le chemin de la libération. Troisièmement, l'appartenance au groupe de ceux restant en arrière, quelque part dans un coin perdu du monde et vivant dans des conditions entièrement nouvelles. Ces préparatifs doivent avoir lieu, car le monde va bientôt devenir un désert. Et pour vous démontrer que nous ne faisons pas ici de suppositions fantaisistes, vous représenter combien cette fin est inéluctable et vous dire clairement « vous avez le choix, encore maintenant », nous vous communiquons une information sur l'île Niou. Des journaux australiens ont donné dernièrement une nouvelle sensationnelle émanant du professeur Ernest Marsden, lequel est tombé par hasard sur l'unique laboratoire naturel de rayonnement du monde. Au cours de l'hiver dernier, un groupe de biologistes et de botanistes néo-zélandais tenta de cultiver des plantes sur l'île Niou. Comme les espèces de légumes inconnues jusque-là dans l'île ne voulaient pas pousser, bien que la végétation indigène y fût particulièrement luxuriante, on envoya, en février 1961, un échantillon du sol à l'université de Wellington, afin que le professeur Marsden, bien connu, l'un des chercheurs atomistes anglais les plus réputés et élève du physicien nucléaire Lord Rutherford, tout aussi réputé, prit l'affaire en main. La première surprise fut que le compteur Geiger, l'appareil enregistreur de rayonnement, s'emballa lorsqu'il fut placé près de la Terre de Niu. Pas de doute, cette Terre était au plus haut point radioactive. Apprenant la nouvelle, le professeur fit ses valises et, avec une équipe de chercheurs, s'embarqua pour Niu. Sur cette île, il trouva des hommes grands et superbes, presque des géants, qui jouissaient de la meilleure santé et étaient, de mystérieuse façon, épargnés des maladies frappant les habitants des mers australes, comme la lèpre, les tumeurs tropicales et la tuberculose. Les 5000 habitants de l'île, aussi bien les hommes que les femmes, mesurent presque 2 mètres. Ils ont une robuste constitution et une intelligence surprenante. Ils possèdent un grand pouvoir de travail et une humeur étonnamment bonne. Tout ceci alors que leurs os et leurs dents démontrent une radioactivité 10 fois supérieure à la normale. L'air, le sol et la mer autour de l'île accusent un taux de rayonnement 20 fois supérieur à la normale, et la nourriture également contenait de fortes concentrations qui allaient jusqu'à 100 fois la normale. On n'a trouvé jusque-là aucune explication satisfaisante de cette radioactivité anormalement élevée. Et le professeur Marsden a émis l'hypothèse qu'un volcan encore inconnu dans les profondeurs de la mer en serait responsable. Cette supposition reste cependant purement théorique. Autrement, plus importante est la question de savoir comment les habitants de cette île peuvent supporter l'influence mortelle de leur environnement et comment ils ont pu développer leur immunité. À ce sujet non plus, aucune réponse satisfaisante n'a été trouvée, car les habitants de Niu n'enterrent leurs morts que depuis une centaine d'années. Auparavant, les décédés étaient mis dans les bateaux à la mer, et les eaux dans les tombes montrent déjà une forte concentration de radioactivité. Sur un point seulement, l'influence du rayonnement qui existe depuis au moins 100 ans se remarque en ce que le taux de stérilité est élevé chez les femmes. Des recherches ont montré qu'une femme sur 4 était stérile et qu'un enfant sur 10 est mort-né. Il semble cependant qu'au cours des 20 dernières années, une amélioration soit intervenue, car presque la moitié des habitants de l'île a moins de 15 ans. Durant toutes ces recherches, les savants n'oublièrent pas un seul instant que, pour eux, le séjour sur Niu représentait un danger de mort, puisqu'ils n'étaient pas immunisés contre les rayonnements radioactifs comme les habitants depuis plusieurs générations et qu'ils n'avaient que de très faibles possibilités de se protéger. Une nourriture riche en calcium donnant à leur corps quelques résistances leur était continuellement envoyée de Nouvelle-Zélande et leur habitat était très isolé et autant que possible protégé de la radioactivité par des appareils spéciaux. Le professeur parle de cette île avec un optimisme mélancolique, comme du nouveau berceau de l'humanité, et pense que les habitants de l'île seraient seuls à pouvoir survivre à une guerre atomique. Cette nouvelle illustre le fait que des forces prévoyantes qui aiment l'humanité, quoi qu'il en soit, s'occupent de trouver un moyen de la sauvegarder en dépit de tout. Ne serait-il pas d'un grand intérêt que vous acceptiez positivement l'invitation de l'école spirituelle et que vous y réagissiez très concrètement? À vous de répondre par vos actes.